Histoire contée, histoire croisée de la vie de Myriam Makeba et de l'histoire de l'apartheid en Afrique du Sud par les ateliers de l'espoir. Je suis Myriam Makeba, vous me connaissez peut-être, peut-être pas. Je suis né en 1932 à Johannesburg, dans un pays déjà meurtri par la ségrégation raciale. J'ai vécu mon enfance à Sophiatown, un quartier de la ville marqué par l'apartheid, j'y reviendrai. Quelques jours après ma naissance, ma mère est emprisonnée 6 mois pour avoir brassé de la bière, entreprise interdite à l'époque. Sûrement une façon de couper les sources de revenus des femmes comme nous et de s'accaparer les richesses. À 6 ans, mon père meurt d'un accident de voiture. Je pars vivre chez ma grand-mère. Elle me raconte alors notre histoire, la sienne, celle de nos aïeux, dont je vais vous toucher quelques mots pour que vous puissiez en comprendre le contexte. On dit que le régime d'apartheid a commencé en 1948, peut-être oui. Mais la ségrégation, l'oppression, la domination, l'humiliation des colons contre nos peuples, elle, a commencé bien avant. En 1652, des colons néerlandais, allemands et français s'installent dans le sud-ouest du pays. Ce sont les Afrikaners. Un long temps au Cap, ils se font ensuite chasser par les Anglais et migrent vers le nord au XIXe siècle. Alors, ils commencent à empiéter sur nos terres, nous rendent esclaves de leurs mines, de leurs usines. À la bataille de Blood River en 1838, ce n'est pas leur sang qui a coulé dans la rivière Nkom, mais celui de 3000 Zoulous. Après avoir été défaits par les Anglais, les Afrikaners se réconcilient avec les Britanniques et créent l'Union sud-africaine en 1910, État rattaché au Commonwealth. Déjà, une loi interdit aux Noirs l'accès à certains emplois. Une autre nous réserve une infime part du territoire alors que nous constituons les 2/3 de la population. En 1912, des Noirs issus de familles aisées créent l'ANC, African National Congress, pour lutter contre la ségrégation et porter la vision d'une société unie et non raciale. Vous allez le comprendre ou plutôt l'entendre, leur combat durera 80 ans. Quelques décennies plus tard, certains idéologues afrikaners inspirés par les nazis cherchent à inscrire la ségrégation dans le quotidien. En 1948, alors que j'ai 16 ans, le docteur Malan, membre du Parti national, est élu à la tête du pays. C'est le début de la politique d'apartheid. Un premier texte interdit les mariages interraciaux en 1949. En 1950, les relations sexuelles interraciales le deviennent à leur tour. Une loi sur l'enregistrement de la population exige que chaque habitant du pays soit classé et enregistré en catégorie raciale. L'État nous parque, nous les Noirs, Métis et Indiens, dans des réserves, équivalent de zones territoriales dans lesquelles les différentes ethnies peuvent s'installer et vivre. La loi prévoit que ces réserves deviennent autonomes puis indépendantes. À votre avis, pourquoi ? Leur objectif est de faire disparaître les populations noires des registres d'Afrique du Sud. Cette nation, ils la veulent exclusivement blanche. À partir de 1952, les Noirs sont contraints de détenir un passeport intérieur qui précise leur réserve d'origine, leur situation familiale, le lieu de travail et la durée de séjour autorisée. Toute infraction est passible d'arrestation et de condamnation. Pour celles et ceux qui travaillent dans les zones blanches, l'État a aménagé de grandes cités réservées, appelées les townships. Je me souviens qu'en réponse, en 1952, l'ANC organise des campagnes de désobéissance civile. C'est la campagne de défiance. On boycotte les transports, on brûle nos passeports. On entre illégalement dans des lieux publics. Résultat, des milliers d'arrestations. Pour le gouvernement, ces manifestations sont des actions illégales. Elles instaurent le désordre et l'anarchie pour promouvoir le communisme. Pratique comme argumentaire en temps de guerre froide. De mon côté, ma fille naît en 52. Je sors miraculée d'un cancer du sein et divorce d'un mari qui me bat. J'avais la chance d'habiter à Sophiatown. Au début des années 50, c'était l'une des dernières zones de Johannesburg où l'accession à la propriété était encore possible pour les Noirs. Le sentiment d'appartenance à ce quartier a donné naissance à une culture qui lui était propre. À Sophiatown, même si c'était impromptu, il y avait toujours une fête. Moi, je rejoins d'abord le groupe des Cuban Brothers, puis deviens choriste des Manhattan Brothers, qui me donne mon nom de scène, Myriam. Ulcéré par la ségrégation que nous subissons, j'utilise ma notoriété pour dénoncer le régime de l'apartheid et les conditions de vie misérables du prolétariat noir. Mais la fête ne va pas durer. C'était un 9 février 1955, je m'en souviendrai toujours. Sophiatown est rasée. Des policiers sont venus toquer à nos portes tôt le matin. Nous avons été délogés et envoyés dans le township de Soweto. Ils ont détruit ce quartier-là, qui restait le seul. Ce quartier-là, c'était le dernier endroit où les blancs, noirs, métis, se rencontraient le soir. Ça se mélangeait, ça faisait la fête. C'était le dernier îlot de liberté. J'enregistre alors « Sophiatown is gone ». Thank you. Alors, je quitte ma fille et la laisse à ma mère. Je suis contrainte à l'exil. Il durera plus de 30 ans. La même année, l'ANC et le Parti communiste adoptent une charte de la liberté, texte fondateur anti-apartheid. Ces libertés, nous les défendrons, côte à côte, tout au long de notre vie, jusqu'à ce que nous ayons conquis notre liberté. Les choses sont dites. La répression s'intensifie encore et encore. En 1960, peut-être en avez-vous entendu parler, le massacre de Sharpeville marque pour toujours la mémoire des Noirs en Afrique du Sud. Il devient un symbole de la résistance face à la violence des Blancs. Pour vous expliquer la scène en deux camps, 15 000 femmes, hommes, enfants manifestent contre le port des passeports intérieurs. En face, 75 policiers. Ils tirent sur la foule. Le bilan est de 70 morts. La plupart sont frappés dans le dos. Dans la foulée, l'ANC est interdite et ses dirigeants sont envoyés en prison. Alors la doctrine de lutte évolue. Mandela dira que la résistance passive non violente est efficace tant que votre adversaire adhère aux mêmes règles que vous. Mais si la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité prend fin. Pour moi, disait-il, la non-violence n'était pas un principe moral mais une stratégie. Il n'y a aucune bonté morale à utiliser une arme inefficace. Au risque de la peine de mort, Mandela participe à la création de la branche armée de l'ANC en 1961. Après une longue traque, il sera arrêté puis emprisonné pendant 27 ans. En 1963, je m'adresse à la communauté internationale, aux Nations Unies. Je vous le demande à vous et à tous les chefs d'État. Agiriez-vous différemment ? Garderiez-vous le silence si vous étiez à notre place ? Ne vous révolteriez-vous pas si vous n'aviez aucun droit dans votre pays pour une question de couleur de peau ? Et si on vous punissait quand vous parlez d'égalité ? Je lance un appel à vous et à tous les pays du monde. Faites tout pour éviter le drame qui se prépare. J'en appelle à vous pour sauver la vie de nos dirigeants, pour vider les prisons de ceux qui n'ont pas à y être. Je suis, en 1966, la première femme noire à recevoir un Grammy Awards. 3 années plus tard, je me marie avec le militant des droits civils afro-américain Stokely Carmichael, chef des Black Panthers. Cette union me crée des ennuis aux États-Unis. Je suis à nouveau contrainte à l'exil et m'installe en Guinée. En 1976, place à la jeunesse. À Soweto, des groupes de jeunes se rassemblent pour protester contre l'obligation de l'enseignement en Afrikaans. La répression est sanglante et fait, selon les données officielles très certainement sous-estimées, 23 morts et 220 blessés. Je me souviens encore de cette photo. Elle fera le tour du monde. La répercussion médiatique internationale du soulèvement entraîne l'adoption par l'ONU d'un embargo sur les ventes d'armes à destination de l'Afrique du Sud. En 1980, encore la jeunesse. Cette fois-ci au Cap. 100 000 élèves manifestent contre la ségrégation scolaire et boycottent les écoles. Les mois suivants, des associations naissent pour soutenir la résistance. Les premières fissures dans le mur de l'apartheid nous donnent espoir. L'année 1983 voit la création du Front démocratique uni, l'UDF, Mouvement d'union d'organisation contre l'apartheid. En 1985, ma fille décède des suites d'une fausse couche. À la suite de ce drame familial, doublé d'une instabilité politique en Guinée, je m'en vais vivre près de Bruxelles. Je poursuis les tournées internationales pour partager ma musique et mon engagement contre l'apartheid et pour le panafricanisme, mouvement d'émancipation qui affirme l'identité des sociétés africaines contre les discours colonisateurs des Européens. Je chante en Zoulou, en Xhosa, en Tswana, en Swahili, en portugais et en arabe. En Afrique du Sud, les townships deviennent incontrôlables. Les enfants désertent l'école pour la révolution. La répression, comme toujours, est brutale, mais elle a lieu sous l'œil des caméras et des télévisions. Les sanctions économiques se durcissent, et les milieux d'affaires s'inquiètent. Il leur faut négocier avec l'ANC. Le président de la compagnie minière montre l'exemple. Il rencontre les leaders de l'ANC en exil. Un pas vers le dialogue. Le gouvernement sud-africain commence à voir le vent tourner. Il tente alors de nous diviser en soutenant l'Inkatha, une organisation anti-apartheid à dominante zoulou. Elle est soutenue en sous-main par le gouvernement, recevant notamment des armes d'un escadron de la mort lié au service de sécurité de la police sud-africaine. En 86, entre les militants de l'ANC, de l'UDF et de l'Inkatha, c'est la guerre. Elle se propage de village en village et fait des centaines de morts. Le 11 juin, le gouvernement accuse l'ANC des violences commises et déclare l'état d'urgence. Il est désormais interdit de filmer le travail de la police. Les funérailles des défunts sont transformées en meeting. À la fin de ces funérailles, je vois encore les vidéos de ces hélicoptères braquer leurs armes sur la foule et tirer. Le seul mois de mai fait plusieurs milliers de morts. Frédéric de Clercq arrive au pouvoir en 1989. Il sait que les sanctions économiques paralysent l'industrie, que les banques et les capitaux étrangers fuient la violence. Il pense qu'il est urgent de sortir de la crise et est prêt à négocier avec l'ANC. Le 2 février 1990, il annonce aux députés la levée de l'interdiction des partis s'opposant à l'apartheid et la libération des prisonniers politiques. Nelson Mandela sera libéré le 11 février. À sa libération, il dira mot pour mot ce qu'il avait prononcé le jour de sa condamnation, 27 ans auparavant. « J'ai rêvé de l'idéal d'une société libre et démocratique où tout le monde vivrait en harmonie avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel je veux vivre et que je veux réaliser, mais s'il le faut, c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Mandela libéré, il me demande de rentrer au pays, dans mon pays. Alors je refoule le sol de l'Afrique du Sud le 10 juin 90. Peu à peu, l'apartheid se lève. Un référendum uniquement accessible à la population blanche mettra définitivement fin à la politique d'apartheid en 92. En 94, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud. De mon côté, je continue de me battre contre le sida, pour l'accueil des jeunes filles battues, et enregistre de nouveaux albums. Moi qui avais toujours voulu mourir sur scène, je tombe à Naples en coulisses de ce qui sera mon dernier concert, privant le monde d'un dernier appel. J'avais 76 ans. Je suis venu au monde avec trois choses. L'espoir, la détermination et ma musique.
Many fine years. Thank you.